chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de VOA Afrique pour votre émission quotidienne à votre avis. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat. Que pensez-vous des conflits fonciers et intercommunautaires en Afrique? Selon vous, comment les résoudre? La législation permet-elle de les régler et de les éviter? Avez-vous des cas particuliers à exposer? Ce sont les questions qui vous ont été posées sur le Facebook de VOA Afrique. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. Je voudrais débuter l'émission en lisant un petit extrait, une analyse sur Mémoire Online qui parle justement de ce problème persistant, donc des conflits fonciers. Cet extrait dit: la persistance des conflits fonciers en milieu rural du territoire de l'Ubero, donc ça parle de la RDC, nous semble une résultante de l'ignorance et ou de la résistance des populations rurales premières occupantes des terres face à un système juridique étranger, celui du droit écrit qui se substitue à l'ordre normatif traditionnel en matière foncière. En effet, rien n'est aussi avéré que le conflit des cultures généré par la colonisation du continent africain qui provoqua une rencontre brusque entre deux organisations sociales opposées, celle traditionnelle africaine et celle occidentale. Ce conflit n'a pas pris fin avec les indépendances politiques. Cette survivance du dualisme culturel a continué à affecter la plupart des institutions sociales africaines, parmi lesquelles le régime juridique foncier. Malheureusement, devant le choix à opposer entre les deux systèmes d'organisation juridique qui offrent aux législateurs congolais, il est bien évident que la faveur accordée au droit écrit l'a manifestement emportée sur celle réservée au droit coutumier. C'est une analyse extraite à Mémoire Online. Alors nous avons, je pense, un auditeur en ligne. Nous avons Sadou Karidjo, au Niger. Oui. Comment allez-vous?
Ah, ça va, tout va bien.
Alors, où êtes-vous au Niger exactement?
Je suis à Tillaberi, au nord de... Oui, à Tillaberi, dans la ville.
Très bien. Alors, on vous écoute. Vous dites que le Niger dispose d'un arsenal juridique en matière de foncier. On vous écoute.
Oui, effectivement, au Niger, nous avons un cadre juridique très performant. Je dirais d'ailleurs, dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons, en matière de législation, le Niger est très avancé par rapport aux fonciers, parce que nous avons ce qu'on appelle le code rural. Donc, c'est un code qui regroupe l'ensemble de la législation en matière du foncier, que ce soit à l'accès à l'eau, le pâturage, la pêche, etc., etc. Tout ce qui concerne le monde rural. Donc maintenant, le problème qui se pose au niveau de ce code, c'est que les populations concernées, les acteurs même ne sont pas souvent informés. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la faiblesse de la sécurisation foncière. Actuellement, les terres sont reconnues sur la base des témoignages, alors que normalement, des titres fonciers, des actes de cession doivent être fournis au niveau des paysans. Malgré que c'est disponible, ces paysans ne sont pas toujours attirés par ces actes fonciers. Maintenant, pour la question du règlement des conflits, nous avons ce qu'on appelle les commissions foncières. Donc, du niveau local jusqu'au niveau national, nous avons des commissions qui s'occupent des questions des problèmes fonciers. Donc, voilà un peu de manière résumée comment ça se passe au Niger.
Et est-ce que vous avez beaucoup de conflits fonciers, justement, mis à part le fait, bien sûr, qu'il y ait donc toutes ces structures? Est-ce que, justement, ces structures sont très occupées à régler ce type de conflits fonciers?
Au niveau des structures, le problème, c'est même la formation de ces structures. Malgré les efforts du gouvernement et des ONG, il y a des structures qui ne sont pas très outillées en matière de prévention et de gestion des conflits. Parce que la base même de ces conflits, c'est l'accès aux ressources naturelles, comme l'eau, comme le pâturage, comme la terre, etc., etc. Donc, à ce niveau, quand il s'agit des conflits intercommunautaires, c'est surtout lorsque on veut accéder à une ressource naturelle. Donc la plupart des cas sont gérés par les communautés à travers les forats, organisés bien sûr par l'État, ou bien les questions de cousinage, plaisanterie, etc., etc. Donc c'est de cette manière que, oui, le problème est souvent réglé.
Est-ce que ça se règle de manière pacifique ou est-ce qu'il y a, comme dans certaines régions en Afrique, des conflits vraiment violents avec des morts?
Oui, souvent le conflit est latent, mais il arrive souvent que le conflit va au-delà même des simples violences où on constate même des cas de mort d'hommes. Donc je crois qu'au Niger, nous avons quelques exemples, mais qui finissent toujours par être réglés par l'autorité locale ou bien par les autorités au niveau national.
Un grand merci, Sadio Karidjo, à partir du Niger, pour toutes ces informations très précises, effectivement, sur la manière dont sont réglés les conflits, en particulier au Niger, un grand pays. Nous avons en ligne, je crois, Goni Boukarmaïnou. Est-ce que c'est vous-même?
Bonsoir.
C'est Goni Boukarmaïnou?
Oui, madame.
Très bien. Madame. Alors, vous êtes au Tchad et vous prenez l'idée de la cohabitation. On vous écoute.
Oui, je trouve que si nous sommes dans un monde déjà en société, il faut toujours se comprendre. Parce que le problème qui se passe, le problème intercommunautaire ici au Tchad, surtout, c'est un problème un peu grave. Donc les autorités sont elles-mêmes parfois très mêlées et ils n'arrivent pas à, ils n'ont pas la volonté, n'est-ce pas, de prôner cette idée de cohabitation. C'est pas normal. Moi je pense que il faut toujours faire la part des choses.
Alors vous parlez,
il faut voir que par exemple le problème.
Oui, je vous écoute. Continuez.
Par exemple, le problème entre agriculteurs et éleveurs, par exemple, c'est un problème qui peut se résoudre très facilement parce qu'il faut tout simplement créer des zones de transhumance, par exemple, et mettre des agents de suivi pour résoudre tout ça, pour faire à chacun et à chacune de construire une route qui peut mener vers sa direction. Et malheureusement, ce qui se passe ici au Tchad, par exemple, les autorités locales et internationales n'ont pas, n'est-ce pas, les nationales n'ont pas cette volonté. C'est ce que je constate.
Alors, Goni, vous voulez dire par là que au Tchad, il n'y a pas d'arrangement, notamment de règlement en matière de zone de transhumance?
Je ne le dis pas officiellement, parce qu'il y a les règlements, d'abord, il y a des règlements, officiellement, il y a des règlements, mais sur le terrain, ils ne sont pas appliqués.
D'accord.
C'est ça le problème. Il ne peut pas seulement laisser la possibilité aux éleveurs ou aux agriculteurs de bénéficier, de profiter de l'autre. Il faut donc que la justice ou bien les autorités, surtout les autorités locales, travaillent sur ça. On laisse les éleveurs briquer, les troupeaux briquer les champs des agriculteurs. Et au lieu de résoudre le problème, immédiatement intervenir, on laisse les éleveurs avec leurs armes et autres. Parce que les éleveurs sont d'abord, ne sont pas seulement des éleveurs, ce sont parfois des armées qui courent derrière les troupeaux. Parfois des armées, on trouve des armées derrière les troupeaux, donc ils sont bien armés avec des armes incroyables, ils peuvent facilement tirer sur les agriculteurs et passer.
Ma
famille a été victime de cela. On avait perdu notre champ cette année, un champ d'environ 5 hectares comme ça, à cause de ces choses-là. On avait poursuivi, on a rattrapé, on a retrouvé la trace, on a retrouvé ces gens-là, mais on n'a pas pu résoudre le problème parce qu'on avait choisi de laisser partir. Si on persistait, ça allait être un problème un peu grave en pleine brousse comme ça. On ne peut pas.
Est-ce que vous avez pu récupérer donc votre champ?
Non, on n'a pas pu récupérer parce qu'il y avait, il avait tout ravagé, quoi. Mmh. On n'avait rien trouvé et on n'avait pas pu avoir des solutions jusqu'à présent. On a laissé ça à la merci de la nature.
Un grand merci.
Mettre la pression. Mmh. Excusez-moi un peu.
Oui, je vous laisse terminer.
Il fallait mettre un peu de pression.
Mmh. Oui. Un grand merci pour votre témoignage, Goni, à partir du Tchad. On a Brahima Ombo Timbe qui est à Bamako. Allô, allô?
Comme j'avais constaté, j'avais pointé dans mon village et dans mon pays, et l'État n'a pas la capacité de morceler les parcelles pour vendre à la population. Donc, ce sont les maires et les gouverneurs et les préfets qui morcellent les parcelles et vendent à la population de manière illégale et illégitime. Il y a aussi la participation des géomètres et des topographes aussi qui vendent ces parcelles de manière illégitime à la population. Souvent, vous verrez des localités ou des communautés qui n'ont même pas attribué la permission de morceler certaines parcelles qui a été réservée à l'État. Donc on voit ces petites tensions et des conflits entre ces différents villages. Donc j'aimerais souligner qu'il n'y a pas une vraie politique pour informer et sensibiliser la population et pour l'usage de ces parcelles-là. Donc c'est lié à la manque de participation aussi des autorités locales. Donc, il y a une structure du ministère des domaines aussi qui ne joue pas pleinement ce rôle. Donc, ces départements attendent d'abord à ces localités qu'ils se mettent en conflit avant d'intervenir. Donc, il faut une vraie communication interne d'abord dans les différents villages pour éviter ces conflits et fonciers. Il n'y a pas aussi une somme qui est fixée pour ces parcelles-là. Souvent, nous constatons dans les tribunaux, lorsque les clients se plaignent par rapport aux différents élus locaux qui nous ont vendu des parcelles, il va au-delà des sommes imaginables. Donc, c'est tout ce conflit que la communauté ou les sociétés villageoises sont confrontées.
Un grand merci, Brahima, pour toutes ces précisions à partir du Mali. Ça nous donne effectivement une idée de la manière dont ça se passe dans votre pays, le Mali. Nous avons Yeya Touré, qui est également au Mali et qui dit que les conflits fonciers et intercommunautaires sont très fréquents au Mali. Yeya Touré, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
On vous écoute.
Je conviendrai avec mon cher collègue et concitoyen qui vient d'intervenir. Parce que nous savons aussi que les conflits intracommunautaires, des fois, sont en majorité liés aux conflits fonciers, qui en existent vraiment en majorité ici au Mali. Nous avons les capacités, les autorités de distribuer certains terrains. Des fois, il y a les autorités coutumières qui en distribuent. Il y a aussi les autorités communales qui en distribuent. Ensuite, il y a les autorités exécutives qui peuvent en distribuer encore. Donc, il y a une manière de distribuer dans ce sens-là. Il n'y a pas aussi des sensibilisations à propos de ce qui enrichissent vraiment les domaines ici au Mali. Il n'y a pas une grande implication de ces autorités. Des fois, nous constatons dans les. Et puis, il y a aussi un problème aussi qui est entre éleveurs et agriculteurs. Des fois, et nous constatons qui amène aussi un peu le problème des conflits intracommunautaires. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler des conflits intracommunautaires sans parler aussi des conflits fonciers. Puisque nous avons constaté en majeure partie ici au Mali, il y a eu des fois, plusieurs fois, dans les interventions du ministre de la. Des domaines fonciers qui a l'être Alex l'autre là, comment dirais-je, Ali Bachi, ils interviennent en majeure partie dans ces trucs-là. On n'arrive même pas à résoudre les problèmes. Et les textes ne sont pas tellement lisibles et compréhensibles, comment dirais-je, de la part certaines populations. Donc il faut vraiment une bonne communication pour pouvoir préparer amener une bonne réponse à ces conflits-là. Mais malheureusement, nous n'assistons pas à ces trucs-là. Et surtout, il n'y a pas une présentativité de l'autorité sur toute l'étendue du territoire national.
Un grand merci. Oui. Voilà. Un grand merci, Yaya, pour toutes ces précisions. Vous avez mentionné le fait qu'il faudrait notamment que les textes soient un petit peu plus visibles, peut-être même plus lisibles par certaines populations. On sait que les termes juridiques, c'est pas toujours très accessible à tout le monde. Nous avons le commentaire de Djibril El Arabi, qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique, ça commence par la malgouvernance, la justice et la corruption, car si ces éléments n'existaient pas, il n'y aurait pas ce type de conflit, dit-il. Et nous avons Gonimi John Fambé, qui est un N'Djamena, qui parle, lui, de communautés qui vivaient autrefois en cohésion. On l'a au téléphone, Djibril. Non, Gonimi, pardon. On vous écoute.
Bonsoir, madame, bonsoir à l'ensemble de votre auditeur.
Merci beaucoup, bonsoir, on vous écoute.
Ok, comme je l'avais soulevé dans mon commentaire sur Facebook, et mon commentaire sera focalisé sur le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Et prenons le cas de ces deux communautés, je pense qu'entre-temps, c'est des communautés qui vivaient en cohésion, ils avaient une parfaite cohésion. Il n'y avait même pas de problème. Alors, comme au Tchad, le politique se mixe dans toutes les affaires, c'est pourquoi, en fait, dans l'état où vous êtes depuis quelques années déjà, nous constatons que nos autorités se sont lancées dans cette affaire, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des éleveurs, des éleveurs à puissance. C'est pourquoi vous allez voir que leurs bouviers sont déjà armés et ils ont laissé les bétails déverser sur les champs de cultivateurs. Donc, à la fin, ce problème va se lever maintenant des problèmes et finalement, ça va finir par des morts d'hommes. Alors, pour proposer maintenant une solution pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses, je pense que l'État devrait plutôt chercher à passer par une sensibilisation, même si les autorités sont devenues des éleveurs. Il va falloir qu'il y ait des sensibilisations et afin d'amener les deux communautés à vivre en parfaite harmonisation, c'est-à-dire pouvoir organiser et donner des principes pour que chacun de ces communautés puisse respecter pour que les éleveurs ne puissent pas arriver à dévaster les champs de cultivateurs et puis en même temps chercher aussi à donner des principes aux éleveurs, aux cultivateurs afin qu'ils puissent cultiver les champs tout en laissant des passages aux éleveurs lorsqu'ils vont conduire leurs bétails au pâturage, qui faudrait qu'il n'y ait pas de débordement.
Mmh. Un grand merci Gonimi pour votre proposition de solution sur cette question. Je vais, avant de prendre Simon Kofi qui est à Abidjan, citer quelques commentaires, notamment celui de Beoulam Nemi qui est au Tchad également. Il dit: les conflits fonciers sont des sujets d'actualité en matière de justice, tout cela parce que l'on a deux manières de les gérer, la gestion coutumière et celle de l'État, dit-il. La terre appartient à l'État, dit-on, mais les autorités compétentes gèrent mal. Dire que la législation peut résoudre ce problème, ce ne sera pas facile. Donc ça, c'est le point de vue de Beyoulam Nemi qui est au Tchad. Il y a également le point de vue de Archiduc Théodore qui est à N'Djamena, qui dit: le système foncier en Afrique reste trop traditionnel et risqué. Il faudrait, dit-il, le réorganiser. Et il y a Louis Moutanga qui lui dit: les conflits fonciers et intercommunautaires ont un dénominateur commun qui est la recherche de l'intérêt, mais en Afrique ou en RDC, dit-il, les agents du service foncier octroient un même terrain à plusieurs clients. Et Apollinaire Seriabé, qui est un N'Djamena, lui a écrit: ce problème est récurrent en Afrique et en particulier dans mon pays, le Tchad, dont serait en mesure de résoudre ce conflit à condition que l'État mette un système permettant de sécuriser l'espace foncier et ensuite éviter la distribution anarchique des terrains qui se passe d'une manière frauduleuse par les techniciens du dit ministère en charge du foncier. Donc ça rejoint un petit peu les auditeurs que nous avons eus jusqu'ici au Tchad. Donc nous avons Simon Kofi à Abidjan en ligne. Simon, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir madame.
On vous écoute Simon, bon, à vous la parole.
Moi, je crois que je prends l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire, où l'année passée, il y a eu une crise vraiment qui a opposé l'agriculteur Peul et les autochtones pratiquement au nord de la Côte d'Ivoire. Ça a vraiment été terrible. Donc pour moi, je crois que c'est l'État qui doit vraiment mettre en place des lois pour, en tout cas, mettre en place des lois qui vont mettre qui vont pouvoir déstabiliser chaque individu, tout au niveau des pulls. Mettre trouver des sanctions, pouvoir les sanctionner à chaque fois qu'ils seront.
Alors, est-ce que, très rapidement, Simon, avant qu'on prenne un autre auditeur, dites-moi simplement, est-ce que selon vous, est-ce que vous savez s'il y a des zones de transhumance qui sont arrêtées dans votre pays, notamment, ou pas?
Oui, il y a un grand secteur de transhumance qui est au nord, pratiquement au nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette zone où il y a des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Et ça dégénère vraiment, ça commence, c'est grave. Et moi, je crois que c'est parce que l'État n'a pas trouvé des mesures pour sanctionner ces éleveurs qui vont à chaque fois détruire les plantations des agriculteurs, puis eux, au moins, ont des sites bien précis où ils cultivent. Donc, ils doivent trouver peut-être des sanctions pour sanctionner ces peuples-là, puisque les peuples, eux, ils sont nomades.
Merci beaucoup, Simon. On a Tidiane Botegueba qui est à Douala. Tidiane, on vous écoute rapidement. Originaire de la Guinée. Allez, Tidiane, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Non, on ne l'entend pas, c'est pas grave, je vais lire ses propos. Il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, par exemple, chez moi, en Guinée, mon pays d'origine, dit-il, depuis l'accession du président Condé au pouvoir en 2010, les conflits intracommunautaires ont vu le jour et ce conflit risque d'empirer. Donc ça, c'est le point de vue Tidiane, hein. Il y en a eu auparavant des conflits, c'est pas nouveau. Il y a Willy Ndondji en RDC qui, lui, a écrit dans plusieurs pays, le pouvoir politique entretient un désordre indescriptible par la non-applicabilité de la législation en la matière qui, à son niveau, entretient les conflits pour des intérêts partisans, dit-il. Il y a lieu de les éviter si le pouvoir mettait en exergue les différentes législations qui régissent les conflits fonciers. Ça, c'est Willy en RDC. Touré Ndoulaye, lui, pense que la meilleure solution serait de mettre en rapport les deux communautés, c'est-à-dire de rendre la justice équitable pour que la paix règne entre eux. Ça, c'est le conseil de Touré Ndoulaye. Ce qui doit se produire, on imagine, dans certaines régions. Hein. Il y a Yao Marcelin qui est à Abidjan. Nous l'avons en ligne, je crois. Non, nous ne l'avons pas en ligne. Yao dit « Les conflits fonciers intercommunautaires sont récurrents en Afrique car la législation en la matière est mal comprise par les citoyens d'une part et surtout l'ignorance même de l'existence d'un article de loi que consacre la constitution ivoirienne d'autre part. En Côte d'Ivoire, la question foncière est réglée par l'article 12 de la Constitution du 8 novembre 2016 qui stipule, alors il cite, « Seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits qui sont garantis, la loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural. » Donc ça, c'est Yao Marcelin à partir d'Abidjan. Et je crois que nous avons l'Unka Eratus Anjame. Ah non, c'est Brahima Doumbia. Brahima Doumbia au Mali. On vous écoute rapidement, c'est la fin de l'émission. Bonsoir. Brahima, est-ce que vous m'entendez? Eh ben non, Brahima ne m'entend pas. Brahima a écrit...
Allô?
Ah, vous êtes là, Brahima?
Oui.
Très rapidement.
Oui, bonsoir, oui.
Vous avez 30 secondes, très rapidement. Très rapidement.
Effectivement, ce problème se pose en Afrique, plus particulièrement au Mali. On a eu tout récemment des conflits entre des gens, surtout vers la frontière burkinabé concernant le foncier. Je pense qu'il faut quand même délimiter les parcelles. Il faut quand même lutter contre la déforestation aussi, parce que c'est une cause aussi très, 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 très remarquable qui fait que des gens quittent les parcelles.
Merci beaucoup, Brahima. Malheureusement, on arrive à la fin. Un grand merci à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, à Cheikh Thierry et à Dan Crafton à la production. À très bientôt. Au revoir.